Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale. Le podcast qui décode le stress et ses sources dans l'entreprise. Chaque épisode est une opportunité de dire stop à la charge mentale, une nécessité pour l'équilibre de chacun et la santé de tous. Je suis Magali Siméon, entrepreneure, experte du futur du travail et maman de 3 enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien.
Si vous avez envie d'entendre un DRH qui explique comment il met en place des actions de tous les jours, des actions de moyen terme et des actions de long terme pour créer une expérience salariée qui change vraiment la donne en matière d'engagement et de marque employeur, alors cet épisode est fait pour vous. Oui, ça passe par des petits pas, des moyens pas et des grands pas, comme tous les changements et toutes les transformations. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mickaël.
Bonjour Magali.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs?
Alors, avec plaisir, bien sûr. Donc, Mickaël Verfeil, donc j'ai 42 ans et donc je travaille en RH. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que travailler en RH, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Ça a été une vocation peut-être un peu tardive, parce que j'ai une licence d'histoire et que, comme tous les étudiants en histoire, je me destinais à l'enseignement, avant de me rendre compte qu'effectivement, l'enseignement n'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait le plus. Et donc après la licence, j'ai fait le choix de m'orienter vers un master administration générale. Okay. Donc un master qui préparait les concours de la fonction publique, puisque dans le cadre de mes réflexions, il y avait cette volonté de rejoindre la fonction publique et la fonction publique territoriale en particulier. Et effectivement, le secteur qui m'intéressait le plus, c'était les ressources humaines. Et donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je travaille en RH. J'ai un profil qui est plutôt orienté RH, formation, développement des compétences, accompagnement. J'ai pas ce profil forcément juridique, c'est pas ce qui me passionne, même si c'est important. Et donc, voilà, j'ai ce parcours et depuis maintenant quelques années, j'occupe des postes de direction RH. Et plus particulièrement, depuis maintenant juin 2021, je suis DRH adjoint à la ville de Roubaix. Et depuis quelques mois, j'ai été détaché auprès de la direction générale pour accompagner la réorganisation de la collectivité.
D'accord.
Nous avons un projet important de réorganisation. Et en complément, je travaille aussi sur une création de nouvelle direction, une direction qui s'appellera Expérience Travail, et donc qui portera cette volonté que nous avons de développer l'accompagnement, la transformation, la performance au sein de la collectivité.
D'accord. Dans Expérience Travail, ça rejoint l'expérience utilisateur, mais appliquée au travail?
Tout à fait. C'est vraiment cette logique vraiment de développer l'accompagnement des collaborateurs, donc du recrutement jusqu'à leur départ. C'est de travailler sur la culture managériale, qui est un axe essentiel pour nous. C'est de développer tout l'axe prévention aussi, et donc qualité de vie au travail, et également des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à la lutte contre les discriminations.
Je vais juste revenir alors un tout petit peu avant dans votre présentation. Finalement, qu'est-ce qui vous a attiré vers la fonction RH? Vous nous avez dit très spontanément, ce n'était pas forcément ma première idée, et maintenant ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré et est-ce que vous avez trouvé ce qui vous a attiré?
Alors, pour moi, la fonction RH, finalement, n'est pas si éloignée de mon projet initial qui était l'enseignement, puisque l'enseignement, ce qui me plaisait, effectivement, c'était cet aspect de transmission, d'accompagnement, de, entre guillemets, faire grandir, en l'occurrence, des étudiants ou des lycéens, des collégiens. Et c'est comme ça aussi que j'ai abordé cette fonction RH, cette idée d'accompagner des individus, d'accompagner des collectifs pour les faire grandir, pour les accompagner dans le changement. Et c'est ce qui, effectivement, fait le lien avec ma vision de l'enseignement au départ.
Et alors, quand on occupe un poste de fonction RH dans une collectivité locale comme Roubaix, est-ce qu'il y a des facteurs différenciants par rapport à, je sais pas, être DRH dans une entreprise de taille intermédiaire ou DRH dans une PME?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des spécificités, mais il y a aussi des points communs avec le secteur privé. On est confronté aux mêmes difficultés, hein. Le premier challenge qu'on a à relever, par exemple, actuellement, c'est le fait de construire un collectif avec l'arrivée de la génération Y qui prend le pouvoir. Je le dis d'autant plus facilement que je suis issu de cette génération Y. Et on a également la génération Z qui arrive au sein de nos organisations. Et donc, avec des générations qui ont des référentiels, des attentes totalement différentes, qui ont une relation au travail aussi qui est différente. Et donc, avec cela, on doit construire un collectif. Donc, privé comme public, on a ce challenge-là. On a aussi, je pense, peut-être sous-évalué les conséquences de la période Covid.
Ouais.
Ça a été, je pense, une période qui a été pour beaucoup traumatisante, parce que ça a été révélateur de nos fragilités. On s'est retrouvé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, face à nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours très très simple.
Ouais, c'est vrai.
Et à l'issue de cette période, on est revenu, soit en ayant figé des règles et des fonctionnements adoptés pendant le Covid, soit on est revenu sur le monde d'après, et on n'a pas forcément évalué, on n'a pas forcément tiré les leçons.
Ouais, c'est vrai.
Et en toute transparence, voilà, je me dis qu'un trauma qui n'a pas été soigné, en général, il finit par revenir.
Ouais, je suis d'accord. Voilà. On a voulu très vite revenir à ce qu'on a appelé une vie normale. Et en fait, ce qu'on a vécu est de l'ordre du trauma. Et pour beaucoup, on n'a pas du tout tiré les leçons, ou en tout cas, fait un espèce de retour arrière. Oui, je suis d'accord. Et dans les entreprises, en plus, avec le déploiement en urgence du télétravail pour ceux qui pouvaient être en télétravail, puis ceux qui ne pouvaient pas être en télétravail. Et puis, il y a plein de choses que ça crée dans l'entreprise et qui n'ont pas été réglés au sens où on met à plat, on en parle. Moi, je suis d'accord avec vous. Et alors, finalement, quand on est le patron, un projet de transfo pour une ville comme Roubaix, c'est quoi vos gros enjeux 2024, hein?
Alors, les enjeux pourraient se résumer, je pense, en quatre mots. Développer l'engagement, développer la motivation, développer la valorisation aussi des collaborateurs et de travailler sur l'attractivité de la collectivité en tant qu'employeur. Alors effectivement, ça passe par tout un travail sur le parcours collaborateur, la culture managériale que j'évoquais précédemment. Ça passe également sur un chantier qui est, je pense, essentiel de mener et de le mener assez rapidement, c'est la place de l'intelligence artificielle.
Oui.
Non pas pour remplacer l'humain, mais au contraire, parce que c'est un outil qui va nous permettre de justement faire plus d'humains,
oui,
en automatisant certaines tâches qui aujourd'hui sont très chronophages. Et l'enjeu qui est l'enjeu principal, effectivement, c'est de travailler sur le bien-être, sur la qualité de vie au travail et la lutte contre les RPS au sein de la collectivité.
Alors, dans toute cette liste, je vais revenir sur deux choses. Vous avez parlé de valorisation. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu pour vous de valoriser? Ça veut dire valoriser les salariés dans ce qu'ils font?
Oui, c'est vraiment effectivement ce travail sur la reconnaissance, sur la valorisation, sur l'importance qu'ils peuvent avoir au sein du collectif. Alors, on sait, hein, aujourd'hui, la valorisation ne peut plus, ou en tout cas ne peut plus véritablement passer par une augmentation de la rémunération, parce que les collectivités en particulier ont des contraintes budgétaires qui sont de plus en plus complexes, et effectivement, on n'a plus les marges de manœuvre qu'on pouvait avoir précédemment. Donc, il faut réinventer aussi cette approche de revalorisation, de reconnaissance des agents. Qui plus est, on sait, hein, la rémunération ne vient pas effacer toutes les problématiques. C'est une réponse à court terme. Si un agent ne se sent pas bien, c'est pas parce qu'on l'augmente que ça ira mieux. Ça ira peut-être mieux pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais les problèmes seront toujours là. Et donc, il y a effectivement une nécessité de réinventer la revalorisation de nos agents, de repenser à d'autres schémas. Et je pense que ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a un fonctionnaire bashing qui existe depuis plusieurs années qui tend à s'accentuer. Et donc, quand on est agent de la fonction publique, c'est pas forcément simple d'entendre régulièrement des attaques ou des critiques, hein. Donc il faut aussi y faire face. C'est également important parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus virulente, de plus en plus agressive, et la nature de nos missions font que nous avons un très grand nombre d'agents qui est en contact direct avec le public et donc qui subit aussi ces insultes, voire ces agressions. Et donc il y a une nécessité aussi de les accompagner et de les revaloriser en leur rappelant que oui, ils ont un rôle à jouer et un rôle important à jouer.
Et donc finalement, ces caractéristiques du secteur public, ce sont des caractéristiques qui sont des facteurs de stress pour vos équipes, en fait.
Tout à fait, parce qu'effectivement, au quotidien, on ne sait jamais comment le public en face va réagir, on ne sait jamais ce qui va être dit, ce qui va être prononcé, quelle attitude on va avoir en face, alors qu'on a des agents qui sont là pour faire leur travail et qui, très majoritairement, le font très très bien.
Oui, bien sûr. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, donc dans vos grands enjeux, vous avez cité aussi la qualité de vie au travail. En quoi 2024, c'est plus un enjeu? Est-ce que ce sont des choses qui sont en train de bouger? Est-ce qu'il y a plus d'attentes? Voilà, pourquoi la qualité de vie au travail dans la liste 2024?
Alors, je pense que les conditions ne se sont pas forcément dégradées par rapport à ce qui existait auparavant. Par contre, l'exigence, les attentes sont certainement beaucoup plus importantes.
D'accord.
Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est peut-être une des conséquences de la période Covid, mais je pense que ça évoluait déjà dans ce sens-là avant le Covid. On a une volonté d'avoir de meilleures conditions de travail, d'avoir plus de flexibilité dans l'organisation du temps de travail, d'avoir une individualisation peut-être aussi de nos organisations. Effectivement, aujourd'hui, on le sait, on a aussi besoin d'avoir plus de temps d'échange, de rencontres avec les collègues. Voilà, par exemple, on est en train de réaliser au sein de la ville une enquête RPS. Et donc, on a eu les premiers éléments. Et le premier facteur de motivation pour les agents, c'est le temps qu'ils passent avec les collègues, la relation avec les collègues. Et ça arrive bien avant les questions de rémunération, par exemple.
Mais vous avez certainement des salariés qui sont en télétravail.
Oui. Alors, volontairement, on a plutôt arrobé une politique qui limite le télétravail. Hein. C'est une journée et demie par semaine au maximum.
D'accord. Ça, c'est une question qui m'interpelle depuis quelque temps. Et vous avez forcément des agents qui n'ont pas accès au télétravail.
Tout à fait. À Roubaix, nous sommes environ 2000 agents. La majorité de nos agents sont des agents de terrain, hein, dans les écoles. C'est des agents de propriété urbaine, c'est des espaces verts. Donc, c'est des agents qui, par nature, ne peuvent pas accéder au télétravail.
Et est-ce que ça crée un sentiment d'inéquité dans l'entreprise entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres? Est-ce que vous le ressentez ou pas du tout?
Alors, ça peut parfois, mais c'est aussi peut-être tout un travail de sensibilisation et d'explication de ce qu'est le télétravail. Effectivement, le télétravail, si c'est perçu comme un avantage, comme un droit, effectivement, ça peut favoriser une certaine iniquité parce qu'on considère que l'agent bénéficie d'un avantage. En l'occurrence, c'est pas le cas. Le télétravail, c'est juste une organisation du travail qui est différente. L'agent qui est en télétravail, il travaille.
Absolument.
La seule différence, c'est qu'au lieu de venir au bureau, il le fait depuis chez lui. Voilà. Donc, c'est réexpliquer, je pense, et c'est essentiel de réexpliquer ce qu'est le télétravail. C'est juste un aménagement de l'organisation et c'est pas un avantage, c'est pas un droit.
Et alors, finalement, donc, vous avez des gros enjeux, vous avez des équipes qui attendent plus de reconnaissance et qui sont exposées à du stress. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi vos recettes miracles? Magie, peut-être.
Alors, si j'avais une recette miracle, je serais certainement le plus heureux des hommes. Et je la vendrais très très cher à d'autres.
Vous avez raison.
Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, concrètement, on a fait le choix de mettre en place différentes actions parce que, voilà, justement, il n'y a pas une solution miracle. C'est en activant plusieurs leviers qu'on va y arriver. Alors, on a des solutions que beaucoup de collectivités, beaucoup d'organisations ont mises en place, hein, qui ont leur importance. C'est effectivement proposer des ateliers de sophrologie. C'est depuis quelques semaines, oui, on propose des ateliers d'expression écrite et orale, ce qui permet aussi aux agents de déposer leur parcours, leur vécu, et ça c'est important de verbaliser, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On a fait également le choix, là depuis quelques mois, d'accompagner plus particulièrement nos directeurs et nos encadrants, puisqu'on est parti du principe qu'effectivement, si on avait des directeurs ou des encadrants qui étaient en difficulté, il était difficile d'avoir des équipes motivées, mobilisées, etc. Et donc, on a souhaité faire un focus sur l'accompagnement de nos directeurs, puisque je pense qu'il y a aussi un phénomène sur lequel moi je suis plutôt sensible et qui a son importance, c'est ce sentiment de solitude qu'éprouvent les managers. Être manager, c'est parfois très très gratifiant, mais c'est aussi parfois très ingrat. Et quand on est manager, y compris en particulier dans la culture française, c'est très très compliqué d'exprimer le fait d'être en difficulté. On peut pas le faire auprès de ses équipes, ce serait se décrédibiliser. Et on ne peut pas le faire non plus auprès de sa hiérarchie, puisque ça pourrait créer aussi des doutes quant à la fiabilité. Et donc, très souvent, les managers se retrouvent un peu seuls face à leurs difficultés. Et ça ne fait qu'accentuer les difficultés. Et donc, on a tout ce travail, effectivement, cette volonté d'accompagner davantage nos managers, puisqu'on part du principe que si nos managers sont bien, ça va permettre de diffuser aussi plus facilement auprès des équipes une culture du bien-être. Après, on a aussi fait un choix de constituer un collectif d'experts en interne qui a vocation à travailler sur les questions de RPS, de bien-être, de qualité de vie. En l'occurrence, c'est un collectif qu'on a constitué là au cours du dernier semestre 2023 et donc qui est constitué d'une psychologue clinicienne qui est en interne. On a une assistante sociale en interne. On a aussi fait le choix de renforcer notre axe prévention en ayant deux conseillers de prévention dédiés à la ville. On a également fait un choix aussi de faire évoluer une de nos collaboratrices sur un poste de conseillère mobilité, puisque spécificité dans la fonction publique, c'est qu'on a beaucoup d'agents qui subissent la mobilité suite à une inaptitude. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner au mieux pour leur seconde carrière. Et on a également fait le choix de disposer d'un médiateur interne qui a vocation à intervenir le plus tôt possible avant que les situations ne dégénèrent. Et enfin, on a fait le choix d'avoir une coach interne également, qui a vocation donc à accompagner, alors dans un premier temps, plutôt les directeurs et les encadrants, et qui aura vocation ensuite à accompagner la totalité des agents. Voilà. Donc on a vraiment ce collectif d'experts. C'était vraiment cette volonté d'avoir ce collectif d'experts pour intervenir et pour être proactif aussi dans la recherche de solutions.
Donc finalement, vous avez un collectif d'experts avec des vraies expertises dans le collectif. Alors je vais être très volontairement provocatrice, mais parce que je sais que certains de nos auditeurs ou auditrices, et finalement, ce que vous avez mis en place, c'est beaucoup de câlinothérapie. Sophrologie, expression, coach, accompagnement mobilité. C'est donc que vous croyez dans l'efficacité de ces mesures.
Alors, on y croit, et j'y crois. Sinon, nous ne l'aurions pas fait. Après, effectivement, ce n'est pas la solution miracle. Ça y participe. C'est important de le faire. Encore une fois, on est dans une société, comme je le disais tout à l'heure, une société de plus en plus violente, virulente. Oui, si on doit passer par un peu de câlinothérapie, ça ne peut pas faire de mal.
Ouais, ouais. Voilà. J'ai bien dit que ma question était provocative parce que je suis d'accord avec vous. Je pense que on sous-estime l'impact des petites actions qui font du bien, en fait. C'est-à-dire que parfois on peut pas tout transformer dans le travail. Vous pouvez pas faire en sorte que le public devienne agréable du jour au lendemain. C'est pas du tout, voilà. Et de faire en sorte que aux agents aient des moments aussi où ils peuvent relâcher la tension, être entendus, être écoutés. Enfin, c'est vraiment des éléments que moi je considère comme essentiels et qui sont souvent un peu sous-estimés.
Et c'est aussi les mesures qui sont les plus simples et les plus rapides à mettre en place.
Oui, c'est vrai.
Parce que, par exemple, dans les chantiers que nous souhaitons mener, il y a aussi tout le travail qui est sur le sens au travail. C'est un chantier de fond qui va prendre du temps. Redéfinir ce qu'est la relation au travail au sein d'une collectivité comme la nôtre, ça se fait pas en quelques jours, ça se fait pas en quelques semaines. Changer la culture, en tout cas faire évoluer la culture interne, c'est pareil, c'est un travail de fond. Donc ça va prendre beaucoup de temps. On va s'y attacher. Mais c'est aussi important d'avoir des actions concrètes qui peuvent se mettre en place rapidement, qui soient visibles.
Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous travaillez sur plusieurs dimensions de temps, entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Et donc, vous avez vraiment un plan global, mais avec des actions qui se voient aujourd'hui pour vos agents et qui sont encourageantes. Et puis, le fait d'avoir une réflexion plus à long terme sur l'ensemble des sujets.
Tout à fait. Il y a vraiment cette nécessité d'avoir cette vision à long terme et effectivement aussi de construire des choses visibles à court terme rapidement parce que on fonctionne tous de la même manière. On a besoin aussi de résultats visibles.
Oui, bien sûr. On a besoin de voir et c'est encourageant. Vous avez parlé, et très justement, de la solitude du manager. Quelles sont les actions plus spécifiques que vous avez mis en place pour vos managers?
Alors, on a effectivement, depuis la fin d'année, parce qu'on est en train de développer cette offre-là, on va mettre en place du co-développement.
Ah oui, super.
C'est important parce qu'effectivement, le but, c'est pas d'arriver auprès de nos managers et de leur dire ce qu'il est nécessaire de faire et de leur dire comment ils doivent faire. Au contraire, on a vraiment cette volonté aussi de créer une communauté. Et donc, le co-développement est l'outil parfait pour créer cette communauté et d'avoir une entraide entre managers. C'est également d'avoir des conférences inspirantes. On est en train de construire un programme et on commence dès le mars prochain avec des premières conférences inspirantes. Ce qui va permettre aussi d'avoir cette petite bulle d'oxygène, d'avoir des temps de réflexion, des temps d'échange avec des intervenants externes, c'est important aussi. Et c'est effectivement tout l'accompagnement individuel que l'on peut faire en termes de coaching ou d'accompagnement au quotidien.
Eh bien, alors, ça sera ma dernière question et le mot de la fin. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des premiers retours de vos collègues, des agents, sur ce que vous avez déjà mis en place? Est-ce que vous percevez déjà un effet?
Alors oui, et c'est très encourageant. La première action, par exemple, que nous avons mis en place auprès des directeurs, ça a été fait juste avant les vacances de fin d'année, donc en décembre, avec une approche assez différente en termes d'animation d'ateliers. Et ça a eu son petit succès. On a eu beaucoup de retours positifs de la part des directeurs qui y ont participé, qui ont été surpris, mais agréablement surpris. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on souhaite poursuivre sur cette dynamique-là. Et c'est aussi l'ADN de la future direction expérience travail que je suis en train de constituer.
Eh bien, Michael, merci beaucoup. C'est hyper encourageant de voir que il y a des fonctions RH qui font le job de bout en bout, c'est-à-dire du court terme et du quotidien jusqu'à la vision à plus long terme. Merci de ce partage.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus? Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préférée. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.